Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois une aventurière magnifique, humble et charismatique. Première femme navigatrice à avoir accompli en compétition un tour du monde en solitaire. Présidente d'honneur de la branche française du Fonds mondial pour la nature et écrivaine à la prose ciselée. C'est Isabelle Autissier qui fait paraître chez Stock un roman fascinant dont l'augure carrément donne le vertige. Il a pour titre « Le naufrage de Venise ». Bonjour et bienvenue Isabelle Autissier.
Bonjour Isabelle.
Voilà, les Isabelles ensemble. Chère Isabelle Autissier, pourquoi les navigateurs écrivent-ils si bien? Pourquoi ont-ils plus que les autres le don de jouer avec la musique des mots? Je pense par exemple à Yann Kefelec, Joseph Conrad, Olivier de Kersauzon, Henri de Montfred, Gérard Moitessier, Bernard Giraudot. Vous, bien sûr, Isabelle Autissier. La mer et la littérature, souvent, ça s'épouse bien.
Alors, je pense que ça fait bon ménage. D'abord parce que les marins sont des gens de la parole. Sur les vieux gréements, on se racontait des histoires la nuit pour passer le temps, passer l'écart entre les vieux marins, raconter aux plus jeunes, etc. La radio était un instrument pour les marins pendant très longtemps, avant qu'il y ait les téléphones satellites. Donc, se parler en mer, c'est essentiel.
Ah bon, parce que je pensais qu'on
se parle beaucoup.
Naturellement, c'était plutôt des taiseux, les marins.
Ben, ils ont cette réputation. Alors peut-être que c'est quand ils reviennent à terre qu'ils ont l'impression de ne pas parler le même langage et qu'ils ont un petit peu de mal à trouver les mots.
En tout cas, ils sont doués pour l'écrit. Alors, sous le titre donc de ce nouveau roman, Le naufrage de Venise, qui paraît chez Stock, justement, sous ce titre est écrit roman, pourtant, ce récit fascinant et apocalyptique, qui nous tient en haleine sur 266 pages, il a tous les ingrédients du réel. Alors on sait bien sûr que Venise, la Sérénissime, s'enfonce de manière accélérée sous les eaux à cause de toutes les folies commises depuis les années 50. Pompage de la nappe phréatique, assèchement de la lagune pour toutes les industries alentours, creusement des chenaux pour faire pénétrer des cargos et des pétroliers jusqu'à la ville proche, Marghera, navires de tourisme hauts, carrément comme des immeubles qui pendant des décennies ont déchaussé les fondations de Venise, tout ça plus le réchauffement climatique. Cette ville entre terre et mer, qui a résisté pendant 1000 ans, Isabelle Autissier, vous nous dites qu'elle va bientôt mourir.
Elle va sans doute mourir. Alors moi, j'ai peut-être, j'espère, un peu anticipé, puisque je la fais mourir dans un avenir extrêmement proche. Parce que voilà, je voulais aussi marquer, je voulais aussi peut-être un petit peu choquer, réveiller les gens dès le début de ce roman. Mais de fait, tout ce que vous avez décrit est parfaitement exact. Moi, je me suis beaucoup documentée pour écrire ce roman. Donc de fait, d'un côté, Venise s'enfonce, de l'autre côté, la mer monte. On voit déjà quand on va se balader à Venise que, par exemple, les commerces, ils ont des espèces de portes amovibles qu'ils peuvent mettre devant la porte d'entrée du commerce. Que on voit qu'il y a des bric-à-brac, qu'on a fait des échafaudages parce que le niveau monte et qu'il faut... Enfin voilà, on sent déjà ça, mais on ne veut pas le voir en fait.
On refuse de le voir. Alors les travaux entrepris par l'homme depuis les années 50 ont effectivement transformé la lagune. Ça a un impact terrible sur le nombre des aqua alta, ces fameuses marées hautes qui inondent Venise. Et puis on le voit parfois à la télé, la place Saint-Marc. Par exemple, entre 1900 et 1910, il y en a eu 4 des marées hautes. Entre 2001 et 2010, il y en a eu 65. À la fin du siècle, ce sera chaque jour de l'année, hein, si Venise s'est pas déjà écroulée, c'est ça?
Oui. Alors c'est très intéressant cette histoire parce que les hommes interviennent sur la lagune depuis de nombreux siècles, mais jusqu'au début du XXe siècle, à peu près, ils faisaient très attention de garder ces flux d'eau entre la mer et la lagune, les flux de sédiments, et puis on gardait ces étendues, ces grandes étendues magnifiques d'ailleurs de la lagune.
Les anciens possédaient cette science.
Voilà, et il y avait ce qu'on appelait le magistrat des eaux, qui était un personnage encore plus important que le doge, qui réglementait tout ça. Et on ne pouvait pas planter un pieu sans avoir son accord. Parce que, on avait cette compréhension, peut-être on était plus proche de la nature, qu'il fallait y aller doucement. À partir, en gros, des années 1920, on décide qu'on va implanter derrière Venise, sur la terre ferme, une industrie pétrolière et chimique. Donc là, on va faire des terminaux pétroliers, on va creuser la lagune. Et la lagune devient un objet. Et la lagune, c'est un être vivant. Et donc, quand on la traite en objet, eh ben, évidemment, elle réagit mal. Maintenant, les eaux arrivent beaucoup plus violemment, les sédiments sont moins là, ces surfaces qui absorbaient les excès d'eau n'existent plus. Donc tout ça fait qu'effectivement, on a considérablement fragilisé Venise depuis un siècle.
Et puis ces navires géants qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais d'abord, parce que je prends la balle au bon, vous parlez de pieux. En lisant donc le naufrage de Venise, j'ai appris que le centre historique avait été construit sur des millions de pieux en chêne ou en mélèze, enfoncés dans la vase, donc sous les eaux. L'eau salée n'a jamais rongé ces pieux en bois sur lesquels reposent des centaines de palais ?
Alors, elle les ronge peu parce qu'on est dans un endroit où il n'y a plus d'oxygène. Et en fait, c'est la présence d'oxygène qui va, par exemple, faire pourrir le bois. Donc, ces pieux se minéralisent petit à petit et donc, ils deviennent presque comme du béton, quoi.
Alors, il est formidablement argumenté, votre roman. J'ai appris plein de choses. Par exemple, il y a 1000 ans, les soubassements, effectivement, au-dessus de ces pieux, avaient été construits dans une pierre blanche très, très dure pour résister au poids des palais, une pierre qui vient d'Istrie, qui résistait à l'eau. Et puis, les parties à l'air libre, elles étaient en briques, pour plus de légèreté. Mais alors, aujourd'hui, les briques, puisque les eaux montent, elles sont complètement immergées dans l'eau de mer. À Venise, chaque maison, chaque palais s'adosse à son voisin. Le jour où une seule demeure s'écroule, Isabelle Autissier, tout Venise va s'écrouler comme un château de cartes.
Alors évidemment, c'est l'hypothèse du roman, mais c'est vrai, quand vous vous baladez à Venise, vous voyez bien que chaque palais s'appuie sur son voisin. Et il y a cette idée que quand même en dessous, c'est quand même mou, hein, ça reste du sous-sol meuble.
C'est de la base, des marais.
Et qu'il peut y avoir des déséquilibres, des mouvements, et on peut tout à fait imaginer, c'est l'hypothèse du livre, que... à cause d'une alta très violente et d'une tempête violente, il y a un écroulement qui commence à se produire quelque part et que du coup, ça déstabilise tout et que, comme un château de cartes, tout s'effondre.
Alors, Isabelle Autissier, le début de votre roman, Le naufrage de Venise, il est vraiment saisissant puisqu'il ouvre sur ce chaos, cet apocalypse. Le naufrage, donc, de Venise englouti sous les eaux par une seule et même onde de choc. Et alors pour ça, dans votre roman, tous les paramètres redoutés sont réunis. C'est-à-dire qu'il y a une aqua alta, c'est-à-dire une marée haute très sévère, 3 semaines de pluie qui ont fait monter le niveau de la lagune et une tempête annoncée qui coïncide avec, écrivez-vous, l'heure de la haute mer et les coefficients de la nouvelle lune. Les coefficients de la nouvelle lune.
Ah, alors, les marins nous, connaissent bien.
Bah oui, vous, navigatrice, mais nous, les citadins, ça nous semble relever de la magie, les coefficients de la nouvelle lune. C'est sur la liste et pourtant, c'est réel.
Oui, c'est parfaitement réel. Alors, ce que je décris n'est pas du tout chimérique. Ça peut très bien, c'est une mauvaise concordance des temps.
On l'a connu
chez moi à La Rochelle au moment de Xintia, où on a eu le même genre de concordance, c'est-à-dire le gros mauvais temps, le pire au moment de la haute mer, les coefficients de la nouvelle lune, c'est-à-dire les marées hautes, très hautes, ça peut arriver.
Donc, la description dans votre livre de cet apocalypse qui va engloutir sous les eaux 800 hectares de palais et de canaux est si terrifiante qu'on l'imagine en fait sur grand écran, vous savez, filmé dans un blockbuster hollywoodien. Mais plus sérieusement, Isabelle Autissier, les Vénitiens sont conscients des dangers ou ils se disent que bon, ça tiendra bien encore pendant un siècle ?
Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. Et comme d'ailleurs... nous sommes tous vis-à-vis du réchauffement climatique, de l'écroulement de la biodiversité, de toutes ces grandes choses dont on discute beaucoup. Mais voilà, c'est ce qui est très... parce qu'au fond, c'est un livre sur le déni qui nous touche tous. Voilà. On sait des choses, on a des chiffres. Le GIEC, les scientifiques nous ont donné des courbes. Des fois, on disait, si vous faites ça, il se passe ça. Si vous faites ça, voilà. On sait tout ça. Et on a un mal fou à le remettre à notre portée individuelle, à nous dire... bah, s'il se passe ça, moi, ma petite vie, ma vie de ma famille, ma maison, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu ça, au fond. Alors évidemment, Venise est complètement emblématique, parce que tout le monde sait que Venise va disparaître.
Mais, oui.
Mais en même temps, donc, les gens de Venise le savent, ils le disent, et en même temps, 5 minutes encore, monsieur le bourreau, pour l'instant, tout va bien. Hein, c'est l'histoire du type qui tombe du 15e étage. Quoi, hein, tant qu'il tombe, tout va bien. Et puis, on n'a pas envie de penser aux choses terribles. Donc, voilà, on préfère un peu mettre ça dans le flou.
Alors, bien sûr, Isabelle Autissier, il y a ce fameux MOSE, ce barrage de science-fiction avec ces coffres gigantesques censés se redresser du fond de la lagune pour protéger Venise en cas de marée haute. Mais... fonctionnera-t-il vraiment le MOSE qui a connu tant de pannes et de scandales financiers ? Je vais vous poser la question dans un instant. On fait une pause très courte et on se retrouve en compagnie d'Isabelle Autissier. Le cœur poids plume, c'est celui d'Hervé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Isabelle Autissier, navigatrice et présidente d'honneur de la branche française du Fonds mondial de la nature, publie chez Stock un roman que longtemps vous porterez en vous, Le naufrage de Venise. Alors Isabelle Autissier, on évoquait à l'instant le Mose, ce fameux barrage digne d'un concept de science-fiction avec ses 78 portes gigantesques en acier pesant 300 tonnes chacune, couchées sous l'eau pour barrer les trois entrées au fond de la lagune et censées se relever pour isoler Venise en cas de marée haute. Le Mose, il existe, mais est-ce que cette construction pharaonique fonctionne vraiment ?
Alors Mose en italien, ça vient de Moïse, hein, sauver des eaux. Donc c'était l'espèce de rêve très caractéristique du XXe siècle que la technologie va nous sauver. On est tellement bons, nous les humains, on est tellement malins. Et donc voilà, l'idée c'était... Il y a trop d'eau dans la lagune, qu'à cela ne tienne, on va empêcher l'eau de rentrer. Et donc les trois entrées embouchures de la lagune qui permettent tous ces échanges de flux, de mer, de sédiments, et ben, on va les barrer. Quand le niveau montera un peu trop en mer, pouf, on fermera les portes. C'est une idée qu'on a eue il y a 30 ans, qui a coûté 6 milliards, dont un a été allègrement détourné, qui a quand même, alors qui a été extrêmement critiqué bien sûr, mais qui a quand même, qui s'est quand même imposé, qui fonctionne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi j'y suis allée un jour à Venise au mois de novembre dernier.
Et vous avez assisté au mécanisme en action ?
Absolument.
Parce qu'il faut nous expliquer, Isabelle Autissier, quel est précisément justement le mécanisme pour redresser à la verticale 78 portes de 30 mètres de haut sur 20 mètres qui sont couchées au fond de l'eau, donc aux trois bouches d'entrée de la lagune et qui pèsent chacune 300
Alors,
tonnes.
Alors c'est vrai que c'est pharaonique comme travaux. Il a fallu d'abord bétonner complètement tout le fond, implanter des espèces de charnières énormes dont on dit d'ailleurs que l'acier n'est pas très bon et que ça commence à rouiller, mais enfin bon. Mmh. Ensuite fabriquer ces espèces de portes gigantesques, les mettre en place. Donc, et après, c'est en fait ces portes sont creuses à l'intérieur. Et il y a des tuyaux d'air comprimé qui passent. Et l'idée, enfin, la façon dont ça fonctionne, c'est que les portes sont couchées pour que les navires, évidemment, puissent passer par au-dessus et entrer dans la lagune en temps normal. Et que quand on veut les redresser, ces portes sont au départ pleines d'eau. Et on injecte de l'air, on fait partir l'eau et on remplit d'air. Et à ce moment-là, comme la porte se redresse toute seule en tournant autour de sa charnière, puisque à ce moment-là, elle est pleine d'air et donc... Elle est soulagée de son poids et elle se redresse.
Si une seule porte sur les 78 ne se redresse pas, Venise est inondée.
Alors, Venise est inondée. Alors après, on peut se dire que si c'est qu'une seule porte, le flux d'eau qui entre est quand même très limité. Mais on n'est pas à l'abri que plusieurs, éventuellement, ne fonctionnent pas. Et puis, ce qui est plus inquiétant encore, et ce que beaucoup de gens critiquaient, vous l'avez évoqué, il y aura de plus en plus de ces marées hautes. C'est surtout qu'à un moment donné, s'il faut barrer la lagune 2 jours sur 3 ou 3 jours sur 4, c'est la vie de la lagune elle-même qui est en danger. Parce que la lagune ne peut pas vivre s'il n'y a pas ces apports d'eau de mer qui amènent des nutriments, des sédiments, s'il n'y a pas... Voilà. Et donc, à ce moment-là, on fait quoi ? On fait un lac.
Venise est dans un bocal.
Ça veut dire qu'on fait Venise dans un bocal, exactement. Voilà. Que la vie de la lagune, évidemment, est totalement bouleversée. Tous ces oiseaux, toutes ces plantes, tout ça a besoin d'un peu d'eau de mer et de cet échange.
Et là, c'est l'ingénieur agronome spécialisé en aïeutique, justement, qui est la gestion, en fait, de tout le vivant en milieu aquatique qui nous parle. Alors, Isabelle Autissier, la construction du Mose a démarré en 2003. Il y a eu, comme vous l'avez dit, plein d'avanies techniques. Et en 2014, il y a eu un scandale financier absolument hallucinant avec 1 milliard d'euros détournés des caisses. Mais ce qui est magistral, j'imagine que la mafia italienne était sur le coup, elle a toujours de l'imagination, les fraudeurs avaient tenu les comptes sur du papier comestible.
J'ai trouvé ça en cherchant, donc, puisque bon, quand même, on a beaucoup écrit au moment de ce scandale, qui a quand même envoyé devant les tribunaux le maire de Venise, le président de la région Vénétie. Donc c'était vraiment la pieuvre, oui, c'est ça, c'était la mafia. Et alors, il ne manquait pas d'imagination, oui. Ils s'étaient dit qu'il fallait tenir les comptes, mais ils avaient pensé déjà que peut-être la police arriverait et qu'à ce moment-là, il fallait pouvoir manger les papiers.
Mais c'est
fabuleux. Parce que la police les aurait peut-être retrouvés dans les poubelles ou je ne sais pas où.
Vous savez qu'un scénariste à Hollywood n'aurait même pas osé présenter ça.
Moi, je n'aurais pas pu l'imaginer, franchement.
Bon, il a fallu 6 milliards d'euros et 17 ans pour construire le Mose. On ne peut plus le démonter aujourd'hui.
Ben non. Alors maintenant, en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas mis cet argent autrement. Parce que 6 milliards d'euros, on fait quand même beaucoup de choses. En fait, il faudrait déjà essayer de restaurer la lagune pour retrouver cet effet d'absorption de l'eau tout tranquillement. Donc il faudrait que les canaux se referment un peu, ces grands canaux qu'on a fait tout droit pour creuser à 12 mètres, pour que les grands arrivent à arriver. Il faudrait apaiser en quelque sorte la lagune. Et bien sûr, maintenant au point où on en est, il faut protéger ce soubassement de briques qui maintenant se retrouve sous l'eau, de manière à ce qu'il ne s'écroule pas, parce que c'est le danger. Hein. L'eau de mer, la brique et l'eau de mer, ça ne fait pas très bon ménage. Donc les briques se délitent et bien sûr, il y a des risques d'écroulement. Donc on aurait mieux fait de mettre l'argent là-dessus. Maintenant, c'est fait, ça existe. Essayons au moins, je pense, de profiter du laps de temps, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, que ça peut offrir pour, alors là, maintenant, s'attaquer vraiment au problème. Et puis après, ils ont des montres à Mose. Mais enfin, c'est quand même un peu beaucoup d'argent est perdu alors qu'on aurait mieux fait d'être plus intelligent.
Les lois récentes qui essaient de gérer justement ces immenses navires absolument effrayants qu'on voit comme ça pénétrer dans la lagune. On a l'impression qu'ils vont écraser inertie la ville de Venise quand ils s'en approchent. Ouais. Cette loi, elle est respectée ou pas?
Alors,
tout à fait?
Oui, bah, de toute façon, ça ne passe pas inaperçu. Enfin, les gens qui sont allés à Venise ou qui ont vu des photos, c'était monstrueux. Ces trucs étaient plus hauts que le palais du Cadre.
Bien sûr.
Plus, enfin, voilà, c'était terrifiant, en fait. On voyait arriver un iceberg. Quoi.
Voilà.
Et il y a eu, en particulier une fois, un bateau qui a mal manœuvré, parce qu'il venait quand même très près. Il y a eu une fois un accident. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais ça fait 20 ans que les Vénitiens se battent contre ces gros navires qui poussaient de l'eau devant eux, qui attaquaient les fondations de la ville. Voilà. Finalement, on a interdit l'arrivée de ces bateaux à proximité de Venise. Ils sont censés faire le tour, rentrer quand même dans
ils
la lagune.
Ils sont censés, dites-vous.
Oui, parce que pour l'instant, ils ne rentrent même pas dans la lagune. Mais on est censé leur aménager un port dans le fond de la lagune pour qu'ils aillent quand même débarquer leurs passagers. Mais au moins, comme quoi quand on se bat, on a des résultats, au moins on a écarté ce danger-là.
Bon, Isabelle Letissier, personne mieux que vous, en fait, ne pouvait s'emparer du sujet, n'était plus légitime pour écrire justement sur le naufrage de Venise, puisque vous êtes ingénieur agronome spécialisé en aïeutique. L'aïeutique, je l'ai dit à l'instant, est la science, la gestion en fait des ressources vivantes aquatiques. Et en plus, vous êtes un fabuleux marin. On va parler tout à l'heure de vos tours du monde, course en solitaire à la voile. Mais je voudrais savoir, Aline, comment cette passion pour le monde aquatique, puisque vous êtes une enfant de la ville?
Ah mais moi, je suis une petite Saint-Maurienne d'origine, donc banlieue parisienne.
Alors
bah, tout simplement, la famille Autissier va en vacances au bord de la mer, en Bretagne, dans le même petit village tous les ans. Là, il y a un petit dériveur en bois, un truc très simple. Hein, et puis, papa, maman, les filles. Voilà. Et moi, je suis fascinée par ce monde. Et je vais être fascinée d'ailleurs aussi bien par la navigation. Moi, quand je suis petite, c'est l'aventure. Hein, c'est voilà, le bateau, il penche. Et puis, on va sur l'île. Et puis, tout ça est très excitant. Mais après, je vais être aussi fascinée par qu'est-ce qu'il y a en dessous. Quand vous regardez la surface de l'eau, mais en dessous, c'est quoi?
Monde mystérieux.
C'est quel monde? Moi, c'est des choses qui m'ont vraiment pris par la main dès très jeune.
Alors, il paraît que à 10-11 ans, Isabelle Autissier, vos parents vous laissaient partir comme ça, à l'aube, seule en mer, sur le petit dériveur familial, qui était donc un vaurien de 4 mètres. Personne jamais ne s'inquiétait?
Mais non, je pense que maintenant, on aurait appelé la DAS.
Mais bien sûr.
Non, alors, il y avait deux choses. D'abord, on m'avait appris à me servir de ce bateau.
Certes, mais...
Mes parents avaient très confiance en moi et je les remercie parce que ce capital de confiance, ça vous aide beaucoup dans la vie. Il y avait une limite, il n'y avait pas le droit de sortir de la baie. Il y avait une heure de retour, je savais qu'il fallait que je sois rentrée à telle heure. Et après, oui, ça marchait, la confiance, et ça s'est toujours bien passé.
À 12 ans, faire le tour du monde à la voile, c'était déjà un but secret?
Oui, c'était déjà un rêve. À l'époque, je lisais des récits de navigateurs. Et puis, je me disais, quand je serai grande, comme on dit, moi aussi, j'irai loin sur la mer. Quoi. Et après, les choses, évidemment, quand on devient adolescente, jeune femme, vient la question du métier, justement. Donc, faire un métier au bord de l'eau, etc. Mais quand même, cette idée, je la portais en moi. Et vous savez, souvent on se moque des gosses hein, quand ils disent quand je serai grand, je serai explorateur.
Eh bien, on a bien tort.
On a bien tort, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui finissent par quand même avoir gain de cause.
La preuve. Alors, en attendant de faire le tour du monde à la voile, vous avez donc choisi l'aïeutique comme spécialité à vos études d'ingénieur agronome. Et à 24 ans, à La Rochelle, vous avez construit seul votre premier voilier. Un voilier en ferraille, c'est ça ?
Oui, en acier. Bon, moi, j'ai toujours été bricoleuse. Hein.
Oui, mais attendez, de là à construire un bateau avec lequel on va faire de grandes traversées.
À 10 ans, on m'avait offert une petite boîte à outils. Alors, c'était censé être un cadeau de garçon, d'ailleurs. Mais comme je piquais ceux de papa, il en avait marre. J'adorais faire des choses de mes mains. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et puis, quand donc c'était mon premier job, j'avais pas beaucoup d'argent, hein, petite paye. Je travaillais pour Ifremer. Et puis, je rêvais de partir. Et donc, il me fallait un bateau. Le mieux, c'était de le construire. En fait, c'était le moins cher.
Certes, mais encore, faut-il en être capable ? Une jeune femme, seule, qui construit un voilier en acier, un voilier avec lequel elle va traverser l'Atlantique.
Oui,
parce
que
vous avez embarqué vos copains et vous avez fait le retour toute seule.
Voilà.
Donc, ce voilier, en fait, il était très performant.
Non. C'était un bateau d'un peu moins de 10 mètres, en acier, assez simple. Hein, assez.
Il vous a fallu combien de temps ?
Mais le bateau existe encore.
Oui, mais pour le construire.
Ah, j'ai mis combien de temps ? J'ai mis un peu plus de 3 ans parce que je travaillais en même temps. Donc, il y avait quand même un peu mon petit copain de temps en temps qui était dans l'affaire.
Qui prêtait main forte.
Et donc, c'était le week-end, c'était les vacances, c'était
donc
le soir.
Donc, il était sous un hangar. Vous avez commencé par les plans à
alors,
définir.
Alors, les plans, c'est pas moi qui les ai faits. Mais voilà, les tôles.
Et ensuite,
en plus, c'était beaucoup de récup parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous.
On soude, on ajuste, on aménage l'intérieur. Il faut faire des choix.
Il y a des manuels qui vous aident, qui vous racontent des trucs. Et puis, il y avait à l'époque, à La Rochelle, il y avait pas mal de gens comme moi. Il y avait toute une petite bande, peut-être 40 ou 50 personnes, qui étaient un peu dans mon genre. Pas beaucoup de sous, envie de naviguer. Donc, on s'aidait beaucoup entre nous. Quand il y avait un truc un peu compliqué, on le faisait à plusieurs, on allait donner des coups de main ou quand il y avait un problème on pouvait réfléchir ensemble. Donc il y avait toute une sorte d'émulation qui m'a aussi beaucoup porté.
Mais quelle joie on doit ressentir de partir comme ça, traverser l'Atlantique sur un voilier qu'on a construit soi-même. On fait une pause très courte et on retrouve tout de suite Isabelle Autissier qui fait paraître chez Stock Le Naufrage de Venise. Quand on rentre de vacances, c'est doux d'écouter la grande Sophie chanter la mer. On a encore un peu de sel sur la peau.
Isabelle Morizet.
Isabelle Autissier a construit sa vie autour de ses passions. La course en mer, tout autour du monde, la défense de la nature et la littérature. Elle publie chez Stock Le Naufrage de Venise. Isabelle Autissier, les gens qui sont dans la réflexion et l'analyse du monde sont rarement ceux qu'on trouve dans l'action. Vous êtes magistralement, en fait, dans les deux. Après avoir enseigné à l'école maritime et aquacole de La Rochelle, donc, et avoir bouclé une mini transat et une solitaire du Figaro, vous avez décidé, en 91, de tenter le défi dont vous rêviez enfant, c'est-à-dire une course autour du monde, en solitaire, en compétition. Et vous êtes devenue la première femme à réaliser cet exploit en 139 jours et 4 heures, malgré, je le précise, un dématage dans la deuxième étape. Quelles sont les 3 pires choses à surmonter dans une course autour du monde en solitaire ? Moi qui ai un tout petit peu navigué, un tout petit peu, je vois ça comme l'exploit ultime.
Alors, c'est compliqué, ouais. La première chose, c'est d'être au départ, ce qui est très compliqué. C'est-à-dire d'être au départ, d'avoir un bateau, d'avoir des financements, de s'être préparé. C'est des années de travail. Après, quand on est en mer, bon, évidemment, en mer, c'est le bonheur, hein, quand on aime naviguer. Dans les courses en solitaire, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut être concentré tout le temps, il faut être à l'écoute tout le temps. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment. Dans n'importe quelle compétition, vous avez le moment de la compétition et puis après, vous rangez votre raquette, vous posez vos chaussures de sport et vous rentrez à la maison.
Sauf que là, la compète, là, elle dure 139 jours.
C'est 24 heures sur 24, même quand vous dormez, vous avez... Voilà. Et ça, c'est quand même une usure mentale qui est très forte. Vous devez prendre des décisions tout le temps. Qu'est-ce que je mets comme voile? Qu'est-ce que je fais? Par où je passe? Et ça, c'est une vraie usure. Et puis, je crois que c'est essayer de ne pas se blesser, essayer de quand il y a du mauvais temps, que ça se passe quand même bien. Donc voilà, c'est échapper à toutes ces situations potentiellement difficiles, voire dangereuses.
Parce que c'est pas parce qu'on est un excellent marin qu'on n'a jamais peur.
Alors, il y a des moments où on est très tendu. Alors, je dirais que c'est pas la peur comme quand on est petite hein, et qu'on voit les diables dans les rideaux. Mais oui, il y a des moments quand le vent monte, par exemple, et qu'on sait que le mauvais temps arrive et qu'on se dit jusqu'où ça va monter, est-ce que le bateau est bien prêt, est-ce que voilà. Donc il y a des moments, oui, où on est quand même très très tendu.
Isabelle Autissier, au cours de votre troisième grande course, le Vendée Globe 96-97, vous avez fait demi-tour en pleine tempête pour essayer de porter secours à Jerry Roof, dont le bateau était en perdition et dont la balise Argos avait cessé d'émettre. C'était une question d'honneur et de solidarité, au risque d'ailleurs de vous mettre en péril dans des conditions extrêmes.
Oui, mais ça, c'est le béaba de toute la course au large. Et je pense
mais je reconnais
la
là
plupart
votre humilité.
Des marins... Non, mais on n'est pas des poissons. Hein. Donc, quand on est en mer, on est fragile et notre vie ne repose que sur notre bateau. Et si on est en danger, ça repose que sur la solidarité des autres humains. Donc, à un moment donné, il y a une chose qui s'appelle la course, la compétition, qui est un jeu, finalement. Hein. Et puis, il y a un autre truc qui est quand même nettement plus sérieux, c'est la vie humaine.
Bien sûr.
Donc, il n'y a même pas de choix à faire, quoi. En l'occurrence, c'est vrai que c'était vraiment compliqué parce que les conditions pour faire demi-tour étaient quand même... La tempête qu'on a essuyée, pas très loin finalement, enfin à une centaine de kilomètres, c'est pas très loin l'un de l'autre, était vraiment apocalyptique.
Oui.
Et arriver à faire demi-tour là-dedans, au tout début même, c'était carrément pas possible. Mais il y avait encore
parce que
beaucoup de vent.
On affale au maximum et il faut rester face à la voile.
Non, mais le problème, c'est que même avec le vent dans le dos, j'avais déjà plus de voile, tellement c'était fort.
Mon Dieu.
Les marins qui savent ce que ça veut dire, j'ai enregistré presque 90 nœuds de vent, 87 nœuds. Donc c'est énorme. C'est un ouragan. Donc là, il n'est même pas question de faire demi-tour. On peut faire demi-tour que quand il commence à y avoir 50 nœuds, ce qui est déjà encore une belle tempête, et essayer de mettre un tout petit mouchoir de poche pour essayer de revenir contre le vent. Donc ça, c'est compliqué. Oui, c'est sûr que la situation était compliquée.
Vous l'avez repéré, le bateau de Jerry Roof, ou pas du
non,
tout dans
pas
cet
du tout.
Apocalypse?
Et c'était l'aiguille dans la botte de foin, parce qu'en plus, comme il ne faisait pas beau, on avait très peu de visibilité. Il y avait une espèce de brouillard, il y avait des grosses vagues, il y avait tout ça. Tout ça faisait qu'on avait... On ne voyait pas très loin et ça aurait été un peu miraculeux. En plus, moi, j'ai eu l'information très tardivement qu'il ne répondait pas.
Oui.
Donc, pendant ce temps-là, forcément, nos routes ont pu se séparer. Donc, j'avais une vague position de où il était la fois d'avant, enfin, quelques heures avant. Mais c'est vrai que j'ai cherché pendant 2 jours.
Vous l'avez cherché.
Ça aurait été un miracle que je tombe dessus, en fait.
Mais il doit être terrible le moment où on prend la décision de renoncer au sauvetage et de
reprendre la compétition.
C'est vrai.
Oui, parce
on vous a dit qu'il n'y a plus aucune chance de le retrouver.
Était piloté à l'époque en France par les services de recherche en mer, qui essayaient de me donner des informations, ils faisaient des calculs de courant, de dérive, ils essayaient de me dire un peu par là, un peu par là. Bref. Et au bout de 2 jours, ils m'ont dit « Maintenant, il faut arrêter parce qu'il y a une autre tempête qui arrive, c'est pas la peine. »
Oui, parce que j'imagine qu'au bout de 2 jours de recherche de ce bateau en perdition, j'imagine que la tempête quand même avait peut-être
diminué, bien sûr.
Mais une nouvelle arrivait.
Mais en fait, il y en a une autre qui arrivait. Et là, pendant 4 heures, j'ai pas voulu les écouter. J'ai fait comme si j'avais pas reçu le message. Parce qu'il y a un moment, c'est très difficile, c'est douloureux même, la décision de dire « je reprends ma route que... ». Voilà. Et ils me suivaient avec ma balise Argos et ils ont bien vu que j'avais pas fait demi-tour. Ils m'ont renvoyé un message en me disant maintenant un peu soyez raisonnable quoi, reprenez votre route de toute façon au bout de 2 jours, Et donc je suis repartie.
Isabelle Autissier, en 99, au cours de votre dernière course en solitaire autour du monde, l'ex Bock Challenge rebaptisé Around Alone, c'est votre bateau à vous qui a chaviré par 20-25 nœuds de vent. Il paraît pas très fort, pratiquement au même endroit que où avait chaviré le bateau de Jerry Roof, et vous vous êtes retrouvé donc la coque du bateau en l'air, la quille en l'air, donc prisonnière d'un voilier, j'ai envie de dire presque transformé en sous-marin. Que fait-on quand on est en mode survie et qu'on ne sait pas si les secours vont vraiment arriver et combien de temps ils vont mettre à arriver? Parce qu'on doit se dire, mon Dieu, mais mon bateau, il va pouvoir flotter la quille en l'air avant de sombrer pendant combien de temps? Il va couler dans une demi-heure, dans trois heures ou demain?
J'en sais rien. Alors, la seule chose qui m'a sauvée vraiment, c'est que avant de partir, des mois avant de partir, à cause de ce qui s'était passé pour Jerry Roof, je m'étais dit que ça pouvait m'arriver. Et donc, j'avais développé des petites techniques qui permettait de quand même garder ma balise de détresse, de mettre un petit hublot pour voir ce qui se passe, de faire les choses. Et après, on est trop loin pour une assistance à partir de la Terre. Donc la seule assistance que je savais pouvoir avoir, c'était celle d'un autre concurrent. Après, on essaye de s'organiser.
Parce que Jerry Roof, on vous a demandé d'arrêter de tenter de le secourir au bout de 48 heures. Ouais. Donc si vous dites deux jours, trois jours, là, on ne sait pas si... on poursuit la tentative.
Oui, non, mais c'est sûr. Là en fait, il se trouve que j'étais relativement en tête de la course. Et donc, je me disais que derrière, les autres coureurs, on allait pouvoir peut-être les détourner pour qu'ils viennent un peu explorer là où j'étais. Quoi.
Alors, là,
et puis surtout, ma valise, elle marchait encore.
Oui, c'est ça. Votre valise Argos, elle fonctionnait. Mais je rappelle que vous étiez, je vais dire, sous le Cap Horn, dans les 50e hurlant, c'est-à-dire pire que les 40e rugissant, encore plus au sud du sud. Quoi. Il y a un dicton de marin qui dit, dans les 40e rugissant, il n'y a plus de loi, dans les 50e hurlant, il n'y a plus de Dieu. Et puis voilà que, au petit matin, soudain, il y a un bruit sur la coque qui n'a absolument rien à voir avec le fracas des vagues. Et c'est Giovanni Soldini, le skipper italien, qui est venu à votre secours. Je voudrais savoir comment vous êtes sorti de cet enfer, parce qu'il y a une sorte de trappe particulière dans la coque du bateau quand celui-ci se retourne.
Alors moi, c'est ce que j'avais imaginé. J'étais le seul bateau. Maintenant, c'est devenu obligatoire.
Oui.
Mais j'étais le seul bateau qui avait imaginé que mon bateau puisse être à l'envers et qui avait demandé à mon équipe de faire cette trappe à l'arrière du bateau.
Incroyable.
Et de mettre le petit radeau de survie au même endroit, protégé à l'intérieur. Donc, si je n'avais pas eu ça, ça aurait été très, très, très compliqué. D'abord, je n'aurais pas pu... Ma balise n'aurait pas pu passer, parce que là, j'avais inventé un système pour que la balise passe à travers la coque.
Ce système, il a été breveté, maintenant il est appliqué tout le temps.
Oui, il est, c'est un système
grâce
tout simple.
Grâce à vous, en fait.
Oui, oui, après, moi, évidemment, j'ai partagé avec plaisir avec tous les autres marins. Mais c'est vrai que d'avoir vraiment décortiqué tout ça et pensé et inventé des petites choses qui m'ont sauvé la vie, ça a été très, très efficace pour moi, oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on dit à son sauveur quand il vous extirpe de l'enfer, hein? On est amis pour la vie.
Ouais, c'est droit, c'était déjà un bon copain, mais bien sûr. Mais en plus, il y a une espèce... Pour le coup, l'humanité prend son vrai sens. Et Giovanni, c'était éprouvant parce qu'un an avant, il avait perdu en mer un de ses compagnons. Et il avait cette idée qu'il avait perdu une vie, sauvé une vie. Et donc... On ne savait pas trop quoi dire. On disait des bêtises, on blaguait, on était... Voilà, mais parce que je
un
pense
peu de
que
légèreté.
L'émotion était très forte.
Était très forte. Et puis ça a dû être incroyable, le premier repas que vous avez partagé donc sur le voilier de Giovanni Soldini, qui était toujours en compétition. Et je précise aux auditeurs que vous n'aviez absolument pas le droit de l'aider, n'est-ce pas? Dans
non,
aucune manœuvre.
Faire les pattes.
Vous faisiez juste les pattes. Mais alors faire des pattes à un Italien, ça c'est compliqué. Hein. Bon, j'espère que les organisateurs, d'ailleurs, pour votre sauvetage, lui ont donné du temps de compensation.
Bien sûr. Mais ça, c'est prévu par les règlements de course. Et donc, il y a le jury qui calcule, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le dernier Vendée Globe, le jury calcule combien de minutes ou d'heures vous avez passé, vous êtes détourné. Ça fait partie des règles de course.
Isabelle Letissier, après ce naufrage, donc au sud du Pacifique Sud, sous le Cap Horn, vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de cinquième tour du monde. Pourtant, votre amour de la mer était intact. Alors, vous avez décidé de naviguer autrement, c'est ça?
Oui, en fait, j'avais même décidé, avant de faire ce quatrième tour du monde, je m'étais dit, bon, le 4-4, c'est bien. Après, il faut que je passe à autre chose. Et j'avais cette envie... Vous savez, par exemple, je suis passée plusieurs fois en course devant le Cap Horn, à toute vitesse, évidemment, puisque c'était la course. Et je me disais, oh, quel endroit magnifique, ces grandes falaises comme ça, qui tombent dans
l'eau.
Vous
n'allez pas nous dire que vous avez décidé d'y retourner en touriste?
Bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai fini le Vendée Globe, 15 jours après, j'étais avec des copains à naviguer dans les eaux du Cap-Horn.
Non, c'était là, mes vacances. Là où votre voilier s'était retourné et vous aviez failli périr.
Mais après, voilà, je suis encore là, j'ai encore des projets. Et puis, j'adore ces endroits. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai trouvé un bateau de croisière, très solide, très, voilà, très bien pour moi.
Très sécure.
Avec lequel je navigue beaucoup, soit dans le Grand Sud, soit dans le Grand Nord, mais en tout cas dans ces coins que j'aime bien, oui.
Finalement, à l'aune de l'échelle humaine, elle est immense ou pas si grande que ça, la planète ?
Elle est toute petite, 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 petite.
Elle est toute petite. Petite, petite.
Quand vous êtes la nuit en mer et que vous regardez les étoiles, vous vous dites « Oh, on n'est rien. On n'est même pas un grain de sable.
» Je suis en compagnie d'Isabelle Autissier. Héroïne, je sais, cette femme est d'une humilité phénoménale, donc ça va l'agacer que je dise ça, mais réellement, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire et écrivaine de grand talent. Elle publie chez Stock Le Naufrage de Venise. On fait une pause très courte, on la retrouve tout de suite. I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts. Me too.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Isabelle Autissier fait paraître chez Stock Le Naufrage de Venise. Isabelle Autissier, j'ai retrouvé un vieil article paru dans Le Monde il y a 22-23 ans dans lequel vous disiez « La course en mer n'accorde aucune disponibilité mentale pour écrire. Mais je le fais en rentrant sur la terre ferme pour transmettre mes émotions les plus fortes à ceux qui n'ont jamais vu la mer. Et peut-être, plus tard, peut-être, écrirai-je sur autre chose. Pourquoi pas des romans ?» Ben voilà, des romans, vous nous en offrez maintenant depuis 13 ans, dans une prose très ciselée. Votre premier roman avait pour titre « Seule la mer s'en souviendra ». Il nous a révélé un écrivain et il a fait la nique à tous ses auditeurs sans imagination qui vous demandaient juste au départ de raconter votre vie, mais même pas écrite par vous. On a osé vous proposer ça.
Oui, ben bien sûr. Mais vous savez, ça c'est le côté un peu business. On vous dit, vous inquiétez pas, on va trouver on appelle ça un nègre en littérature, c'est pas très joli.
Non.
Il va vous faire raconter deux, trois trucs, puis il écrira ça très bien.
Ils avaient si peu confiance en vous.
On mettra Autissier en gros sur le titre et puis ça ira. Bah oui, mais voilà. Alors moi, j'étais vexée comme un pou qu'on me propose ça, parce que je me disais, bon, bah, je voudrais quand même essayer d'écrire moi-même, quoi.
La nature est toujours l'héroïne hein, de vos romans, donc comme dans le nouveau, bien sûr, Le Naufrage de Venise, où la nature, d'ailleurs, reprend ses droits face à la bêtise des hommes. Avec ce roman, qui ouvre sur l'engloutissement de Venise à cause d'une énième marée haute, due à la détérioration de la lagune, au tourisme de masse et puis au changement climatique, en fait, vous nous suppliez de sortir du déni et de réagir très vite. Et j'ai découvert dans ce livre un mot qui m'était complètement inconnu, la solastalgie. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ?
La solastalgie, c'est un mot inventé par un professeur de psychologie, je crois, australien, qui décrit cet état de tristesse profonde, de dépression, qui nous vient quand on voit disparaître des choses qu'on aime et dont on sait que c'est fini. Et j'ai pris l'exemple dans le livre, par exemple, de moi, ça m'a touchée quand on a vu ce film, vous vous souvenez peut-être de l'écroulement des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, qui avait été miné par les talibans.
Oui.
Ces merveilles de l'art, et ben voilà, c'est fini. Et on éprouve de la nostalgie aussi par rapport à la nature. Des beaux paysages de nature.
C'est comme un véritable sentiment de deuil.
Qu'on a connu, voilà, un sentiment de deuil. Et on se dit, je ne le connaîtrai plus, mes enfants ne le connaîtront pas. Et c'est aujourd'hui, on voit un certain nombre de jeunes, et c'est assez terrible d'ailleurs, être atteint de ce syndrome de perte irrémédiable.
Oui, qui est bien réel. D'ailleurs, vous dites, si dans un documentaire, vous voyez par exemple des arbres massacrés à la tronçonneuse, vous éprouvez un mal-être qui est presque proche du chagrin.
Ah oui, non, c'est un vrai chagrin. Et malheureusement, on le voit encore trop souvent, que ce soit... c'est même pas seulement dans les grandes forêts amazoniennes où quand on voit ces arbres qui ont des centaines et des centaines d'années, qui sont des merveilles de la nature, qui ont toute une vie autour d'eux, quand on les voit tronçonner, brûler, ça fait mal. Mais on peut aussi le voir parfois dans nos villes. On avait des places avec des arbres magnifiques et puis on vous explique qu'ils vont mettre des trucs en pot parce que c'est plus joli.
Voilà. Mais bon, vous parlez, Isabelle Autissier, de la forêt amazonienne. J'ai appris que 70% des forêts et des zones humides avaient disparu depuis 1900, l'année 1900. Ce qui est dramatique pour les animaux, mais ce qui nous impacte aussi. Il en est quoi du massacre justement de la forêt amazonienne qui a commencé dans les années 70 et qui, en moyenne depuis 30 ans, fait disparaître chaque année 700 000 hectares. 700 000 hectares chaque année, c'est dément.
Malheureusement, ça continue, puisque en plus le président actuel, Bolsonaro, a encouragé l'exploitation de cette forêt amazonienne, qu'on coupe pour faire des terres cultivables, pour mettre du soja, par exemple, qui va nourrir les vaches en Europe. Parce qu'en Europe, on ne fait pas assez de culture pour nourrir nos vaches, ou on a trop de vaches, ou on mange trop de viande, et donc on importe ce soja. Donc de l'autre côté, les gens en Amérique du Sud, ils disent, mais c'est la manne économique. Cette forêt ne nous rapporte rien, brûlons-la, et faisons à la place des cultures qui vont nous rapporter beaucoup d'argent. Donc on voit bien comme ça, le problème est global, parce qu'après, cette forêt qui absorbait une partie des gaz à effet de serre, elle ne le fait plus.
Oui, puisqu'on l'appelait le poumon de la planète. Vous avez été, Isabelle Autissier, pendant 12 ans, donc présidente de la branche française du Fonds mondial pour la nature. Vous êtes désormais la présidente,
d'honneur,
magnifique et justifiée. Donc le Fonds mondial pour la nature qu'on appelle WWF, voilà, organisation indépendante et apolitique. Qu'avez-vous le sentiment d'avoir fait le plus progresser pendant ces 12 années-là?
Alors, je crois que ce qui a énormément progressé, c'est la conscience des choses et le fait que, justement, tout ça sont des questions du réel et de la science. Ce n'est pas une opinion. Le réchauffement climatique n'est pas une opinion comme une autre. C'est une réalité qu'on peut mesurer. Et je pense que cette démarche-là, vous savez, il y a encore 5 ans, 10 ans, on disait « ouais, c'est une écolo ». Bon, c'était pas forcément sympathique, quoi. On avait l'impression que c'était une opinion d'être écolo. Ben non, c'est pas une opinion, c'est moi je suis une scientifique et donc je vois voilà. Donc ça, je pense que c'est une idée quand même qui s'est affirmée. Et puis la deuxième chose qui s'enclenche malheureusement pas assez vite, c'est quand même les réactions, y compris de gens, par exemple, dans des grandes entreprises ou dont on se disait ils en ont rien à faire, ils font jamais rien, voilà. On voit quand même si c'est encore trop timide, mais on voit quand même
que le mouvement s'enclenche,
voilà, que le mouvement quand même démarre.
Mais alors, je pose la question justement à la spécialiste, puisque vous êtes ingénieur agronome spécialisé en aïeutique, qui est la gestion donc du vivant en milieu aquatique, Isabelle Autissier, face au 18 millions de tonnes de déchets plastiques, donc non destructibles, pas biodégradables, jetés chaque année dans les mers, face aux 6 millions de tonnes d'hydrocarbures déversées, face au massacre de la pêche industrielle par les navires usines qui tuent chaque année, alors le chiffre il est tellement fou qu'on a du mal à le concevoir, chaque année 1000 milliards de poissons. Les solutions, on n'est franchement pas près de les trouver.
Alors, les solutions, il y en a. Par exemple, si vous prenez la pêche européenne, ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire que les populations de poissons, entre guillemets, européennes, parce qu'on a imposé des restrictions, des quotas, des façons de faire, etc. On a interdit la pêche en eau profonde, qui était un désastre, puisqu'on détruisait des écosystèmes extraordinaires qu'on ne connaissait même pas.
Mais
Donc là, il y a des endroits où ça va
des eaux qui
mieux.
Cernent l'Europe.
Voilà, c'est assez vrai aussi du côté des États-Unis. Ce n'est pas du tout vrai dans beaucoup d'autres endroits, malheureusement. Mais voilà, on arrive à montrer qu'on peut arriver même à restaurer un certain nombre d'endroits. Et que la nature, elle est souvent assez bonne fille. Donc ça, c'est quand même un espoir. Maintenant, aujourd'hui, tous les problèmes auxquels vous avez fait allusion, par exemple sur les marées noires aussi, on a progressé. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Hein.
En
Europe, on n'en a pas connu quand même depuis pas mal de temps. Donc on peut mettre les choses en place. Et quand on les met en place, ça marche.
Mais alors, par exemple, la pêche industrielle. Le plus gros chalutier du monde pour la pêche industrielle, surnommé le monstre, officiellement, parce qu'il y a pire encore, il mesure 143 mètres de long, il pêche et il stocke en une seule journée 250 tonnes de poissons découpés vivants, je précise. Et il y en a un carrément qui change régulièrement de nom et de pavillon. En ce moment, on l'appelle le Vladivostok. Il fait 230 mètres de long. Il pêche 560 000 tonnes de poissons chaque année. Non, on interdit ça quand ?
Non, mais ça pour le coup, je pense qu'il faudrait vraiment réglementer les questions de taille. Parce que ça devient effectivement n'importe quoi. Moi, je préfère même à tout prendre qu'il y ait des pêcheurs artisans avec des bateaux de 12 à 24 mètres, comme on peut le voir sur les côtes françaises ou ailleurs dans le monde, qui vont pêcher, qui font vivre leur communauté locale, les villes, les villages sur la côte,
à taille humaine,
que ces gens-là qui vont aller ratisser tout. Mais pour ça, par exemple, il faut que nous aussi, en tant que consommateurs, on ait notre mot à dire et qu'on, d'abord, on restreigne un petit peu nos consommations de poissons sauvages. On ne peut pas continuer à en consommer autant. Les Français en consomment 4 fois plus que la moyenne mondiale, donc il faut se calmer un peu. Et puis qu'on soit sélectif, qu'on dise voilà, je veux du poisson qui vient, dont je sais d'où il vient, je le demande à mon poissonnier.
Vous avez fait une déclaration, Isabelle Letissier, qui m'a vraiment frappée parce que vous l'avez dit avec votre franchise habituelle et je trouve qu'elle est très signifiante. Voilà, d'une manière très pragmatique, un jour vous avez déclaré « Ceux qui répètent que la planète est en danger n'ont pas bien cerné le problème, car c'est nous qui sommes en danger. La planète, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Elle deviendra brûlante, peut-être, ou bien glacée, mais elle continuera de tourner, la planète. Elle survivra autrement, mais elle survivra sans nous, parce que nous, on sera morts. Parce qu'on est ultra fragile, sans stabilité climatique, sans air pur, sans eau potable et sans des océans féconds. En fait, il faut arrêter de dire que la planète est en danger, c'est nous
qui le sommes.
Mais bien
sûr, mais c'est pour ça que les questions environnementales, c'est avant tout un humanisme. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour nous, pour vivre dans des conditions décentes, dans des conditions où l'humanité peut continuer à s'exprimer. Or, aujourd'hui, on a une forme d'organisation humaine, sociale, économique, politique, tout ce que vous voulez, qui tire contre nous-mêmes, puisqu'on détruit les fondamentaux qui nous font vivre. La première chose, c'est d'avoir un climat à peu près correct. Hein. Vous savez, le mois dernier, en Inde, il a fait 50 degrés. À 55 degrés, les protéines coagulent, les hommes coagulent. À 55 degrés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les hommes? Ils vont partir. Ils ne vont pas se laisser griller sur place. Donc, vous voyez, on frôle les limites, là, quand même, de la survie de l'espèce. Donc, voilà.
Mais alors, je pose la question qui fâche. Aujourd'hui, les partis écologistes sont confisqués par l'extrême-gauche. Ils s'allient à la France insoumise, au Parti communiste. Comment voter pour un écologiste quand on est, par exemple, tout bêtement au centre? Il n'y a pas d'écologie apolitique.
C'est les fondements de l'écologie le sont, puisque les fondements de l'écologie, c'est de la science.
Certes, mais alors pourquoi est-elle confisquée par les partis extrêmes?
Elle est confisquée parce que les autres ne s'en sont pas occupés. Parce que pendant des décennies et décennies, les seuls qui ont porté ce sujet-là, c'était ces gens-là. Si les partis de droite, du centre, voire même de l'extrême droite, avaient eu vraiment une action, pas seulement des beaux discours, mais une action sur ces questions environnementales, ils auraient été crédibles et ils auraient pu porter ces sujets-là. Ils ne l'ont pas fait.
Alors Isabelle Letissier, comme tous les ans, vous allez changer le message de votre répondeur en prévenant que vous serez injoignable jusqu'au 10 septembre, car vous allez rejoindre votre bateau, un vieux voilier très sûr, très sécur, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, pas rapide du tout, un bateau pour naviguer où cet été ?
Alors cet été, ça va être du côté du Groenland Nord-Est, donc c'est toujours mon tropisme pour les mers froides. Et j'espère, genre, je croise les doigts pour avoir l'autorisation finale.
Et pourquoi ce tropisme pour les mers froides?
Alors d'abord, j'aime pas le chaud. Bon, c'est une bonne raison. Oui, moi, au-dessus de 25 degrés, je suis un peu comme les poissons. Hein, je commence à chercher l'oxygène. C'est des endroits sublimes de beauté. C'est des endroits relativement naturels encore, où on peut encore voir des animaux sauvages dans leur milieu. Et quand on y va doucement et qu'on ne les approche pas trop près et tout, c'est quand même assez magique de voir passer un ours sur la plage ou une baleine dans l'eau. Et puis, c'est des endroits compliqués à naviguer. Quelque part, moi, j'aime bien ça.
Mais alors, dernière question. Et là, ça file vite avec vous le temps, Isabelle Letissier. En fait, rien ne rend plus humble que la mer.
Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'on ne choisit pas, à part de partir en mer, mais après, on est dans la nature. Et moi, ce que j'adore ça, c'est-à-dire que bon, je ne vais pas changer la forme des vagues, hein, Je ne vais pas dire que le vent m'arrangerait mieux. Je prends ce qui est, je prends la beauté du monde, je prends la complexité du monde. J'essaye juste d'adapter ma stratégie à ce qui m'environne. Et ça, c'est vraiment... ça rejoint la question écologique, finalement. Hein, parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Il faudrait tous des marins, quelque part.
Ouais.
Et en faisant ça, je me sens portée par le vent, par la mer.
D'ailleurs,
par les
en compétition,
éléments.
Vous ne vous êtes jamais battu contre la mer,
jamais,
mais
surtout
avec.
Surtout pas. Se battre contre, on est mort tout de suite. C'est pas
bien
la peine.
Bien sûr. Le naufrage de Venise vient de paraître chez Stock. Le livre est aussi fascinant qu'argumenté. À très bientôt, Isabelle Autissier. Merci.